Bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand monde d'orientation. Aujourd'hui, on continue la série Lifeguard pour partir à la rencontre de Margot. Margot est coach, elle exerce à Londres et sa spécialisation est surtout centrée sur les questions de disponibilité à soi, d'écoute pour pouvoir prendre des décisions plus alignées avec nos besoins profonds. Elle nous donnera donc dans cette discussion plusieurs outils concrets que nous pouvons mettre en place pour pouvoir nous aussi mettre le monde en sourdine et pouvoir écouter notre intuition et prendre ainsi des décisions peut-être plus alignées avec nous-mêmes. Elle nous proposera même en fin d'épisode une petite méditation guidée pour les moments où nous avons besoin d'aide dans nos prises de décision. Bonne écoute! Alors avant de commencer, Margot, je me suis dit tout à l'heure sur mon vélo ce matin que ce serait chouette qu'on commence par une question qui n'a rien à voir, mais que j'adore poser aux gens et que j'oublie tout le temps, et qui est, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi ou devenir quoi quand tu l'apprendrais?
Eh bien, je ne savais pas. Et je pense que c'est une question qui est assez difficile à... qui est assez difficile à répondre pour tous les gens qui sont un peu multipotentiels ou qui justement ont beaucoup d'intérêt pour différentes choses. Donc, je savais que j'aimais les langues, par exemple. Donc, j'ai étudié la question de devenir peut-être prof d'anglais, de devenir sorcière aussi. Enfin, voilà, j'avais pas vraiment. Je cherchais cette vocation, cette case dans laquelle j'allais rentrer, mais j'avais pas vraiment. Un truc où je me suis dit, bon, je vais faire ça et je vois rien d'autre, quoi.
Ok. Voilà. T'es la première personne à me dire que tu rêvais d'être sorcière. Je vais prendre quelques petits instants pour... Ouais, je trouve ça trop chouette. Comment tu l'expliquais aux gens?
Je sais pas, tu sais, j'étais une enfant, mais j'étais vachement attirée par toutes les choses un petit peu mystiques, un peu... les énergies, je lisais beaucoup sur ces sujets-là, et donc du coup c'est pour ça que je dis voilà que je voulais être sorcière. Mais si je regarde aujourd'hui, finalement c'est assez marrant parce que avec le Reiki par exemple, je travaille justement sur les énergies, il y a cette dimension un peu plus spirituelle, travailler avec les huiles essentielles, j'aime la lithothérapie, enfin toutes ces choses-là qui sont un peu différentes, on va dire. Et je retrouve du coup cette passion que j'avais déjà enfant qui me retrouve aujourd'hui et c'est top. Mmh. Voilà.
J'avoue, c'est un peu un retour aux sources. Moi, j'avais plus pensé, je me disais, sur le côté un peu magie de t'aider les gens via le coaching aussi à se découvrir. Donc, c'est
tout à fait
de magnification de ce qu'on est, de nos énergies. Du coup, c'est trop chouette. Et est-ce que tu peux me dire justement comment t'en es arrivée au coaching?
Ouais, alors, je pense que beaucoup de coachs ont décidé d'être coach par rapport à forcément leur expérience de vie, mais aussi j'ai remarqué que c'est souvent des personnes qui ont été un peu forcées à aller chercher des clés en eux bien profondément pour pouvoir naviguer la vie un petit peu plus sereinement et qui, quand ils les ont trouvées ou quand ils ont trouvé des outils justement pour les aider à vivre plus sereinement, ont envie de les partager pour aider un maximum de gens. Donc, ça a été un peu le cas pour moi aussi. Par exemple, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait du mal à trouver sa place, qui me sentait un peu inadéquate. On va dire ça comme ça. Et par exemple, l'adolescence a été une période particulièrement difficile pour moi. Bon, c'est souvent une période difficile hein, pour tout le monde, mais particulièrement difficile pour moi. J'ai fait une grosse dépression. Enfin, c'est... pas fun, quoi. J'étais quelqu'un de très académique et... très souvent première de la classe. Je cochais un petit peu toutes les cases. Qu'on croit inconsciemment avoir à cocher. Et au point que je pense que je me suis convaincue à ce moment-là que j'avais besoin de cocher toutes ces cases pour justement dire que j'avais réussi ou enfin si je les cochais pas je pourrais pas être aimée, enfin c'est des choses bien sûr inconscientes qu'on se dit pas littéralement comme ça, mais finalement c'est comme ça que je l'ai vécu. J'étais très très exigeante avec moi-même, très perfectionniste, et en fait je me suis épuisée tout simplement. Et par exemple, pour les parcours d'orientation, j'ai fait un bac économique et social parce que je me disais que voilà, je m'ouvrirais, enfin voilà, ça m'ouvrirait plus de portes, alors que bon, l'économie concrètement, ça m'a jamais passionnée. J'étais beaucoup plus attirée par la littérature, les choses comme ça. Et donc c'est déjà, enfin j'ai toujours eu cette impression d'aller un peu à contre-courant, de toujours devoir forcer. Et je pense qu'on a tous cette croyance de se dire, pour réussir, il faut que ce soit difficile, en fait, alors que c'est pas vrai. Et donc voilà, ce choix de filière qui n'était pas du tout aligné avec qui j'étais, m'a valu de continuer à pas me sentir à ma place et à toujours forcer, comme je le disais. Et après, pour le travail, ça a été un peu pareil parce que, donc à Londres, j'ai travaillé dans de grandes entreprises internationales et j'ai occupé des postes qui me donnaient un salaire confortable et un certain statut social aussi, de par les enseignes que j'ai pu occuper. Et je pense que le travail du coup était réellement consumant et j'ai côtoyé énormément de personnes qui étaient finalement dans le même cas et qui ont fait des burn-out ou qui étaient proches du burn-out. Et c'est un peu là où j'ai eu mon épiphanie, parce que je me suis dit, mais enfin, ça n'a pas de sens pour moi, en fait, ce que je fais. Et je ne peux pas continuer à forcer tout le temps comme ça. Et il y a quelque chose de plus, je le sais, mais il faut que j'aille vraiment le chercher, quoi. Je pense que je me suis arrêtée à temps, parce que moi aussi, je n'étais pas loin, du coup, du burn-out. Enfin, c'était tous les soirs, je rentrais complètement épuisée. Et jusqu'au moment où voilà, je me suis dit, mais c'est pas normal de vivre comme ça. Et quand on voit tous les gens sur Instagram qui vivent des vies de fou, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Bon, faut pas toujours croire ce qu'il y a sur Instagram, hein, mais voilà, enfin, je voyais d'autres choses à côté. Je me disais, mais pourquoi moi, j'ai pas. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivée sur le coaching, parce que j'ai fait vraiment ce travail de découverte de moi, de recherche de moi. Et finalement, je me suis autorisée à aller vers les choses qui me faisaient vibrer, quoi. Et j'ai fait le travail sur mes peurs, sur tout ça. Et le coaching, c'était déjà quelque chose que je faisais dans mon travail. Enfin, j'avais plusieurs casquettes, mais coach en était une. Et en fait, je me suis dit, mais ça, vraiment, j'ai une énergie à chaque fois que je sors d'une session. Enfin, j'ai quelque chose à creuser là, et c'est ce que j'ai fait. Bon, désolée, hein. Du coup, c'était une réponse assez longue, mais...
Non, mais t'inquiète, en plus, c'est super intéressant. J'ai noté que t'avais parlé de « pour réussir, c'est difficile ». Effectivement, ouais. C'était un truc auquel j'avais jamais réfléchi avant. Et comment tu t'es... Parce que là, tu disais que quand tu sortais de ta séance de coaching, t'étais super heureuse, t'avais de l'énergie. Ce qui est un peu... Ah, je m'entends en écho. J'ai dit ce qui est un peu contre-productif par rapport à ce que tu faisais au travail. Et comment t'as déconstruit justement cette idée que si c'était simple et que tu sentais bien, il fallait que tu ailles vers ça, plutôt que de devoir trimer tous les jours et de rentrer en étant épuisée.
Ouais, mais je pense que c'est vraiment c'est ce choix de se dire déjà je vais chercher et je vais creuser ces symptômes et ces choses que je ressens. Donc le fait de ne pas se sentir à sa place, le fait de rentrer, d'être complètement épuisée au point que je voulais parler à personne, je rentrais du travail, j'allais me coucher, quoi. Donc c'est déjà de creuser ces symptômes et d'aller à la source et pas juste de les traiter. Et du coup, quand on arrive un peu à retourner à la source, pourquoi je me sens comme ça ? Et en fait, ça ouvre la porte à d'autres perspectives. Et puis après, du coup, j'ai vraiment creusé sur, mais en fait, qu'est-ce que j'aime, du coup ? Qu'est-ce qui a du sens pour moi ? Donc, j'avais déjà quelques pistes. Par exemple, je savais que oui, je voulais aider, parce que quand je faisais ces sessions de coaching, quand je voyais que les gens obtenaient des promotions parce que je les avais aidés, ou parce que, en général, j'aidais aussi ceux qui avaient des problèmes de performance ou qui avaient du mal à se enfin, à prendre le rythme. Et donc, des personnes qui ont eu des démarrages un peu lents, que je voyais qu'ils arrivaient, enfin, ils grillaient tôt après. Enfin, c'est génial, quoi. Ça fait tellement du bien. Donc, je savais que je voulais ça, enfin, que je voulais aider, que je voulais transmettre. Mais c'est, enfin, il y avait tellement plus de choses que ça à explorer. Donc, c'était vraiment repartir à quelles sont mes sources d'énergie, tu vois. Où est-ce que, d'où est-ce que je puise mon énergie plutôt que qu'est-ce qui me consume, en fait. Enfin, bah, ça aussi. S'interroger sur qu'est-ce qui te consume, parce que quel est l'environnement qui te correspond par rapport à qui tu es. Donc c'est pour ça que c'est important d'étudier ces sources d'énergie. Qu'est-ce qui me motive? Quand est-ce que je suis dans mon flow? Quelles sont ces choses qui ont du sens? Quelles sont voilà, c'est vraiment ce travail encore d'introspection. Et pour répondre à ta question sur comment j'ai déconstruit, je pense que, enfin, je dis toujours à mes clients, la première étape, c'est déjà de faire ton travail sur qui tu es. Recherche tout ça, donc recherche toutes ces choses de sources d'énergie, quels sont mes talents naturels, quelles sont, enfin voilà, mes compétences, les choses que j'ai envie d'exprimer, mes valeurs, etc. Et puis après, c'est de vraiment comprendre ton pourquoi. Donc une fois que tu as étudié un petit peu toute cette carte de talents, c'est en fait, pourquoi je veux faire ça? Et moi, quand j'ai fait ce travail-là et que je me suis créé en gros mon job, c'était tellement important pour moi et ça avait tellement de sens pour moi que tu arrives à surmonter les peurs. Les peurs, finalement, deviennent des obstacles à surmonter sur le parcours, mais elles ne dévorent plus ta capacité à agir. Donc, c'était déjà identifier ses croyances limitantes, identifier ses peurs pour savoir, enfin, voilà, quand est-ce que c'est une peur qui vraiment te limite ou est-ce que c'est une peur qui est logique et, enfin, donc voilà, enfin, c'est faire ce travail-là d'identification. Et puis après, une fois déjà que tu as mis le doigt dessus, en général, il y a déjà quelque chose qui se passe et qui se dénoue en toi. Mais c'est vraiment aussi avoir, voilà, cette vision, cette chose qui, finalement, c'est tellement proche de qui tu es, que tu peux pas te laisser le choix, en fait, de pas y aller, quoi. Ouais. Voilà.
Oui, c'est vraiment se tourner vers ça. Mais c'est marrant, parce que de ce que tu dis, j'ai envie d'avoir un flash, et pourtant, ça m'arrive très peu souvent, mais je crois que c'est Jean de la Rochard qui dit ça, que généralement, tu aimes ce dans quoi t'es bon. Parce que c'est assez simple pour toi, donc t'as envie de creuser toutes ces questions-là, alors que souvent, on insiste beaucoup sur... Trouve ce qui peut te faire sortir de ta zone de confort, fais en sorte d'être toujours plus ou moins inconfortable, etc. Alors qu'en fait, de temps en temps, c'est une erreur aussi de creuser là-dedans. Donc c'est très chouette de voir que tu as aussi cette vision.
C'est ça. Et puis, enfin, je pense que l'inconfort, il faut quand même aller le chercher. Oui. Mais l'inconfort, c'est pas forcément quelque chose qui te fait du mal. Tu vois, c'est vraiment... L'inconfort, ça peut être justement cette idée d'aller creuser derrière ses peurs, d'aller creuser derrière ses croyances limitantes pour justement s'autoriser à aller vers ce qui est facile. Tu vois, donc c'est quand même une zone d'inconfort parce que c'est un changement et tout changement a son lot d'inconfort. Mais ouais, je pense qu'on ne nous dit pas assez d'aller vers les choses qui nous attirent et puis de tester, quoi. Tester. C'est trop important.
Et est-ce que toi, du coup, tu as testé avant tes gros changements? Je pense par exemple à ton déménagement à Londres, où là, tu me disais, le coaching aussi, tu avais commencé à planter quelques graines. Mais est-ce qu'à chaque fois, tu fonctionnais comme ça ou tu l'as appris au fur et à mesure?
Good question. ouais, je pense que... Enfin, j'ai testé puisque... Forcément, quand je me suis dit, bon, le coaching, il y a quelque chose à creuser, du jour au lendemain, j'ai pas dit, bon, bah voilà, je trouve que ça, c'est pas mal, donc je vais y aller. Allez, je démissionne et puis je me lance, je crée mon entreprise et ça s'est fait en 2 jours. C'est pas vrai. Donc, oui, donc j'ai exploré ces idées plus profondément pour voir si vraiment, oui, ça me fait vraiment vibrer ou c'était juste ces 2-3 fois où il s'est passé telle chose, quoi. Donc, ben, j'ai choisi de faire une formation déjà, donc c'était une première grosse décision puisque bon, il a fallu que je la finance, c'était une organisation, mais je me suis donné les moyens, quoi. Et donc, déjà, c'était un gros test de voir vraiment être complètement dans le monde du coaching, de rencontrer des gens qui sont dans ce milieu-là et voir si là, du coup, je me sens à ma place ou pas. Donc, c'était pour moi un test. Et bon, concrètement, ouais, ça a marché. Et après, c'était aussi de tester tout simplement de coacher des gens et de coacher différents profils aussi pour voir quel sujet j'aime coacher, quel sujet j'aime pas coacher, et quels sont les outils aussi que je veux ajouter à ma pratique. Et c'est pour ça que j'ai introduit le Reiki aussi. Et puis maintenant que j'ai créé mon truc à moi, donc avec le coaching, mais pas que. Et je pense que c'est parce que justement, j'ai testé un peu toutes ces choses et je me suis dit lesquelles je garde, quoi.
Ok. Oui, donc je note l'importance de tester. Est-ce que, justement, dans le coaching, ce que je me souviens, tu m'avais parlé de ta comparaison des moments de vie, un peu sur, comme si on était sur un vaisseau, si je me souviens bien.
Ouais.
Du coup, est-ce que tu penses que le coaching, ça correspond un peu à une période de ta vie, une période de tes besoins, ou que tu as trouvé un peu ton alignement pour, je ne vais peut-être pas dire pour la vie, mais pour un long moment?
Ouais. Là, personnellement, je me sens complètement à ma place. Et donc, pour le moment, je sais que c'est ce que je veux. Et ce qui est bien pour moi, en étant du coup entrepreneur, c'est que je peux aller dans plein de directions différentes. Donc, si j'ai envie d'un peu de changement, je peux créer un nouveau programme, explorer, comme je disais, un peu d'autres pistes, intégrer de nouveaux outils, des choses comme ça. Donc, je pense pas m'en lasser de sitôt. et puis vraiment, c'est mon truc, c'est quelque chose que je fais naturellement. J'ai pas l'impression de travailler, quoi. Donc ouais, je pense que j'ai vraiment trouvé mon alignement et puis je le sens en moi. Je pense que c'est quelque chose que tu peux sentir dans ton corps, dans tes émotions, dans ta façon d'agir, de t'ouvrir, de tout ça. Mais pour revenir sur la métaphore du vaisseau, c'est un peu finalement ce qu'on disait avec tester, parce que je pense qu'il faut un peu arrêter de se mettre la pression. Et je sais que c'est très difficile parce que il y a la famille, il y a la culture, il y a la société, il y a plein de croyances extérieures qu'on a bien imprégnées, quoi, qui nous disent qu'il faut trouver le truc, voilà. Et je pense qu'il faut un peu arrêter de se dire ça et plutôt se dire que, enfin, ce qu'il faut trouver, c'est surtout se trouver soi, quoi. Et c'est apprendre à se lire, apprendre à s'écouter et suivre un peu notre chemin ensuite basé sur ces choses-là. Et je pense qu'on est amené à prendre plusieurs vaisseaux et la carrière, c'est un peu, à différents moments de notre vie, on va avoir ces vaisseaux qui nous rencontrent parce qu'on est prêt et c'est ce qu'on cherche à ce moment-là. Et justement, pour les multipotentiels, par exemple, que j'ai évoqué tout à l'heure, je pense que ça soulage aussi de se dire ça, de se dire que en fait on est voué à, on peut en fait avoir plusieurs carrières, on peut avoir plusieurs vies dans une vie, on peut, tu vois, essayer plein de choses. Et je pense que c'est vraiment se dire les choses vont, que ce soit, mais pareil pour les relations par exemple, que ça c'est fait de rencontres, c'est au moment où on est prêt à recevoir ça, et on veut le recevoir aussi. Et la carrière, je pense que c'est un peu pareil. Donc, il faut se donner les moyens de tester, de sortir des sentiers battus un peu.
Mais c'est trop chouette. D'autant plus que je pense qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes peurs et pas les mêmes envies selon nos âges aussi. Et les moments où on y met. Et est-ce que du coup, tu as des petits tips ou des choses que tu aimes bien partager pour justement aider les gens à trouver, peut-être pas le trouver tout de suite, mais du moins s'engager sur ce chemin d'alignement et de la connaissance de soi.
Tout à fait. Je pense que déjà, on l'a un petit peu évoqué, mais je pense que principalement, c'est d'apprendre à lire les signes, en fait. Donc, par exemple... ce que j'ai évoqué tout au long de la conversation, c'est que je ne me sentais pas à ma place. Quand on sent qu'on va toujours à contre-courant, ça, clairement, c'est des signes qui te montrent que tu n'es pas en alignement avec toi-même. si tu sens qu'il faut toujours forcer, ou alors si tu sens, par exemple, que tu es tout le temps fatigué, que tu tombes malade plus facilement, tu attires pas vraiment ce que tu désires au fond de toi, tu vois. Ou alors, t'as beau essayer, mais ça marche pas. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est des signes qui sont concrets et sur lesquels on peut s'appuyer et se dire, bon, voilà, là, j'ai ça, je ressens ça, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Donc, c'est déjà accepter de recevoir ces signes, donc se sentir déconnecté de soi-même, se sentir un peu à côté de la plaque, en fait. Qu'est-ce que j'ai noté ensuite? Ouais, c'est ça, ne pas se sentir à sa place, nager à contre-courant. Donc, c'est ça, en fait, ne pas être aligné avec soi. Hein. C'est quand on a tous ces symptômes-là où on se dit... tu sais, tu te dis, je sens qu'il y a quelque chose d'autre, mais je ne sais pas quoi. Et là, en général, on ignore parce que, justement, on ne sait pas quoi. Ou alors, on a identifié quelque chose. Par exemple, je me sens mal dans mon boulot, je ne suis pas épanouie, mais je ne fais rien parce que, en fait, je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc, tu vois, c'est déjà bon. Prendre conscience de ces signes, apprendre à les lire et puis se laisser un peu partir à la découverte de soi pour justement pouvoir trouver comment faire après et comment en sortir. Donc, une question que j'aime bien dire, c'est par exemple te demander qu'est-ce que tu sais que tu aimerais ne pas savoir. Donc, qu'est-ce que tu sais là dans ta vie que tu aimerais ne pas savoir? Donc, par exemple, dans ton job, qu'est-ce que tu sais que tu n'aimerais pas savoir? Ou alors, par exemple, ça peut être au niveau de ta santé, tu vois. Tu sais que tu as eu mal au ventre pendant plusieurs jours, mais tu fais rien parce que, tu vois, tu sais pas trop, encore une fois, tu n'as pas envie d'entendre ce que le docteur a à te dire, donc tu préfères ignorer. Voilà. Quelles sont ces choses, en fait, que tu ignores, mais que tu sais au fond de toi? Et là, en général, ça, c'est des grosses sources de... d'informations si tu choisis de creuser. Donc c'est déjà tout ça ça fait déjà pas mal de choses. Après c'est forcément apprendre à s'écouter. Apprendre à s'écouter, on nous le répète beaucoup, je pense qu'on sait pas tous qu'est-ce que ça veut dire concrètement, mais apprendre à s'écouter, c'est déjà ralentir le rythme. Donc j'ai noté qu'il y avait quelque chose où je me sens pas super épanouie, ou il y a quelque chose qui cloche, quoi. Donc je vais ralentir. Et ça veut dire que arrêter d'essayer d'endormir ces symptômes, en fait. Tu vois, donc là, on a déjà été forcé à ralentir avec le confinement parce qu'on passe plus de temps seul chez soi, donc on a plus de temps de réfléchir. On a été forcer un peu à l'introspection. Mais sinon, c'est, tu vois, si on ne se sent pas bien, par exemple, dans son travail, on va avoir tendance à sortir davantage, on va avoir tendance à faire plein de choses pour le week-end pour oublier ce problème-là, au lieu d'en fait de creuser, tu vois. Et donc, c'est ça, ralentir, prendre le temps de se questionner et s'accorder ces périodes d'introspection que vous pouvez faire d'ailleurs avec quelqu'un. Avec un coach, avec un ami, avec... il y a plein de possibilités maintenant et plein de différentes pratiques aussi pour choisir de faire cette introspection. Donc, prends le temps de se demander pourquoi. Ensuite, c'est être honnête avec soi. Et je pense que ça, c'est pas toujours évident parce que parfois, être honnête avec soi, ça veut dire... on sait qu'il y a des gros changements qui vont devoir arriver et on n'est pas toujours prêt et ça peut faire peur. Mais donc, c'est vraiment ne pas ignorer ces signes qu'on reçoit, ne pas ignorer nos émotions. Si on est énervé à fleur de peau, si on a des mots M-A-U-X, le manque de clarté d'esprit, tout ça, c'est des signes qu'il faut écouter. Et donc, encore une fois, être honnête avec soi-même et les reconnaître, se dire « Ah bah oui, en fait, il y a vraiment ça, quoi. » Et choisir de creuser un peu. Ensuite, c'est quelque chose qui peut être déjà très utile, c'est aussi de comprendre ses valeurs. Comprendre ses valeurs, c'est en gros, quelles sont les choses les plus importantes pour moi. Et il y a plusieurs activités qu'on peut faire pour trouver ses valeurs. Moi, j'aime bien demander à mes clients, par exemple, de dessiner trois moments de leur vie où ils se sont sentis au top, quoi. Vraiment au top, super épanouis, voilà. Et de regarder ces dessins après et de se dire, bah, en fait, quelles valeurs sont exprimées à travers ces dessins-là. Et le fait d'utiliser le dessin, en fait, on va accéder à des choses un peu plus inconscientes et en général, on tape droit dans le mille, quoi. Donc, j'aime bien cette méthode-là.
Donc, j'allais dire sur cet exercice, justement, du dessin, tu prends combien de temps avec la personne pour la laisser dessiner
et en général, je leur dis de le faire entre les sessions, si tu veux, et puis on en parle après pendant la session. Comme ça, ils ont vraiment le temps de le faire quand ils sont posés, quand, tu vois, ils peuvent encore une fois prendre ce temps de ralentir et de se retrouver un peu seuls avec eux-mêmes. Mais après, il y a plein d'autres possibilités. Si vous tapez tout simplement sur Google et vous liste de valeurs, vous pouvez regarder des listes et tout simplement voir lesquelles vous appellent en premier. Et puis, un peu essayer de faire des catégories, essayer de les organiser et puis essayer d'en garder trois maximum. Voilà. Et après, quand je prends une décision importante, se demander alors, est-ce qu'à travers ces décisions, j'honore mes valeurs? Est-ce que c'est vraiment aligné avec ce en quoi je crois plus profondément, ce qui est le plus important pour moi? Ce qui est fondamental, en fait, pour que j'aie mon équilibre. Et vos valeurs changent aussi. Donc, c'est pour ça qu'on revient à l'idée du vaisseau. Mais certaines choses qui étaient les plus importantes pour toi quand tu avais 15 ans, vont être forcément différentes de celles que tu vas avoir maintenant et celles que tu auras dans 10 ans. Et donc, c'est bien de faire un petit check de valeurs de temps en temps pour voir où on en est. Et peut-être que quelque chose est passé au-dessus d'une autre des valeurs que tu avais. Enfin... voilà, et arriver à suivre, orienter notre parcours par rapport à ça. Par exemple, moi, mes valeurs fondamentales, du moins en ce moment, c'est l'authenticité, la liberté et l'amour. Et derrière chacune de ces valeurs, il y a plein de choses qui se rassemblent. La liberté, ça peut être aussi la liberté financière, ça peut être la liberté d'exprimer ce que je ressens, la liberté de... Enfin, donc voilà, pour moi, tout se résume sous ces trois. Et quand je regarde, par exemple, mon job précédent, clairement, je ressentais aucune de ces valeurs, quoi. Je me sentais pas capable de les exprimer comme je les entends, du moins, dans ce rôle-là. Et clairement, ça voulait dire que c'était plus ce qui me correspondait. Et il était temps pour moi de penser à autre chose. Donc, ça peut être vraiment un bon exercice pour voir où on en est. Et puis... se demander aussi dans la vie de tous les jours, quoi. Est-ce que, pas seulement dans le travail, mais est-ce que j'exprime ces valeurs? Ou comment je peux exprimer ces valeurs davantage aujourd'hui? Et c'est, même dans les relations aussi, de comprendre tes valeurs, les valeurs de ton partenaire, ton ou ta partenaire. C'est pareil, tu peux comprendre, ah bah oui, mais elle fonctionne comme ça parce que, tu vois, parce que ces valeurs, c'est ça. Et du coup, ça peut vraiment dénouer des conversations, c'est top, quoi.
C'est marrant parce que souvent, tu sais, sur les offres de job, tu vois des entreprises qui mettent nos valeurs, son blablabla. Et donc, je me dis, si tu as fait ces exercices dont tu parles, tu peux aussi te pencher sur ces valeurs-là. Et je pense que tu as de temps en temps, et là, c'est vraiment un avis très personnel, tout le monde peut aussi différer, mais que tu as souvent des différences entre les valeurs que toi, tu penses avoir et celles que tes amis ou tes proches pensent que tu as dans les attitudes que tu adoptes dans ta vie de tous les jours. Et j'y pense plus en termes d'entreprise, que j'ai l'impression que comme il y a plus de gens qui les incarnent, c'est plus simple de voir les dissonances. Et du coup, je me demande si dans tes exercices, tu demandes aussi aux gens d'aller voir leurs proches, ou si ça reste une introspection, j'allais dire, dans cette bulle.
On fait... pas tout à fait au niveau des valeurs, mais je demande en général à mes clients de faire une petite enquête avec une liste un peu de questions auprès de leurs proches, de leurs amis, de leur famille, collègues aussi s'ils ont la possibilité, sur, tu vois, en quoi je suis bon, tu vois, par exemple, et aller leur demander ça. Et parce qu'il y a, quand je parlais de talent naturel et de choses comme ça tout à l'heure, c'est souvent en fait tellement évident et tellement présent dans nos vies qu'on le voit pas. Et du coup, à travers des exercices comme ça, en demandant à nos proches, on arrive à mettre le doigt sur ah bah oui, mais en fait, j'ai toujours fait ça, quoi. Et à considérer des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas forcément pensé. Pour les valeurs, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Et comme je disais un peu, on a... Enfin, moi, par exemple, quand je dis liberté, authenticité, amour, derrière ces trois mots, j'ai toute une tonne d'explications. Et c'est pour ça que ces trois mots résument tout ce que je pense et tout ce qui est important pour moi. Et donc, forcément, l'interprétation est propre à chacun. Mais c'est important de regarder les valeurs d'une entreprise. Est-ce que je me reconnais dans ces valeurs-là? Mais aussi, n'hésitez pas, quand vous faites un entretien, à leur poser la question, comment vous exprimez ces valeurs-là? Parce que c'est beau de l'avoir sur un papier, mais concrètement, comment ça se traduit dans la façon dont vous travaillez? Et je pense que c'est important parce que il y a eu un petit peu un phénomène de mode autour des valeurs. Et donc voilà, il fallait les accrocher. Elles sont affichées dans l'entreprise, personne n'en parle. Et tu croises un collègue et tu lui demandes quelles sont les valeurs de l'entreprise. Eh bien, je te garantis que tout le monde ne peut pas répondre à cette question. Donc c'est important, pour vraiment être en adéquation avec l'endroit dans lequel tu travailles, de poser ces questions-là, ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question, mais...
Si. Et j'avais du coup une autre question, mais qui était sur ce temps que tu prends pour toi, pour réfléchir à tes valeurs, et prendre un peu un pas de recul. J'ai l'impression souvent qu'on prend ce temps de pause, d'introspection, etc., quand on part de chez nous. Alors, je pense à des vacances, moi, comme je suis encore étudiante, je pense aussi à nos échanges qu'on peut faire, où c'est les moments où on prend un pas de côté, et donc on peut aussi regarder notre environnement et le décortiquer comme on n'y est plus. Mais dans ta vie de tous les jours, comment tu fais justement pour te créer un peu cet espace de ralentissement, ou du moins cet espace d'observation?
C'est intéressant que tu dises ça, parce que en fait, qu'est-ce qui est différent quand tu es en vacances ou quand tu quittes chez toi?
En soi, il n'y a pas grand-chose, je pense, si ce n'est la disponibilité. Et après, je pense que quand tu pars en voyage aussi, de temps en temps, tu as des situations qui t'obligent à te poser des questions. Typiquement, moi, je sais que j'avais été en Inde et il y avait de temps en temps des moments où je me disais « Ah, ça me gêne, mais pourquoi ça me gêne ?» Et donc après, je détricotais et je revenais à mes valeurs, j'allais dire mes valeurs occidentales plus. Parce que je pense beaucoup au mariage arrangé.
Ouais.
Mais c'est pour ça que je me demandais, quand t'as pas ces trucs qui te forcent à te poser des questions, comment tu fais pour ralentir et surtout pour avoir cette disponibilité mentale?
Déjà, tu vois, je pense que t'as répondu à la question, parce que dans ce que tu disais, donc qu'est-ce qui est différent? Ce que tu as exprimé, c'était la possibilité d'avoir une prise de recul. Et tu as évoqué aussi la disponibilité. Et en fait, c'est un peu à ça à quoi je fais référence quand je dis ralentir. C'est en fait, tu vois, essayer d'avoir cette vue d'oiseau, tu vois, regarder tout d'en haut et se dire, ok, en fait, où ça cloche, où est-ce que je suis pas complètement satisfaite, où est-ce que j'ai envie de plus. Et ça, tu peux le faire, forcément avec un coach. Puisque la prise de perspective, c'est un peu notre travail, quoi. mais aussi, juste en te posant les questions, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je sais que j'aimerais ne pas savoir? Et puis, c'est vraiment ralentir. Donc, c'est au lieu de faire, passer du temps à être plutôt qu'à faire. Et ça, c'est trop important. Et donc, ça peut être... Vraiment, encore une fois, c'est propre à la personne. Moi, je sais que personnellement, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et donc, je suis très vite stimulée par l'environnement extérieur. Je suis sensible au bruit, à la lumière, à tout ça. Et donc, j'ai besoin, moi maintenant, du coup, vu comment je travaille et comment... l'introspection, ça fait partie de ma vie de tous les jours. Donc, pour moi, le soir, c'est méditer, c'est faire du journaling. Donc écrire un petit peu des choses qui reviennent, ou tous les soirs, tu vois, fais-le pendant je sais pas, une ou deux semaines, marque un peu ça dépend quel sujet tu es en train d'étudier, enfin sur lequel tu veux creuser, mais par exemple si c'est chercher un nouveau boulot, bah, tous les soirs, noter un petit peu bah, qu'est-ce que tu as aimé faire dans ta journée, à quel moment tu t'es sentie plutôt énergisée et à quel moment, au contraire, tu as senti que pff, là, tu perdais l'énergie. Et puis, fais ça sur une ou deux semaines et puis tu vas voir que tu vas obtenir des réponses qui reviennent et là, tu vas te dire « Ah bah là, j'ai touché quelque chose. Je sais que j'ai besoin de… » Enfin, à chacun de ces moments, il y avait ces éléments qui étaient communs. Et du coup, je sais que j'ai besoin de ça pour être énergisée, pour… donc en fait, enfin tu vois, t'as plein de façons de le faire. Tu peux faire du yoga, tu peux faire du sport, tu peux aller marcher dans la nature. C'est tous ces moments où tu peux être un peu déconnecté en fait, et enfin déconnecté de l'extérieur et connecté à ton intérieur quoi. Donc ouais, méditer, travailler avec un coach, avoir une conversation avec un ami où tu explores un peu ces sujets là quoi. Et tu… Ça dépend encore une fois sur quoi tu veux travailler, mais je pense qu'il y a plein d'opportunités pour faire ça absolument tous les jours. Mais c'est encore une fois une décision à prendre.
Mais du coup, comment tu fais ? Et là, c'est vraiment une question de personne addict à son téléphone et aux écrans. mais comment tu fais aussi pour déconnecter, mais de façon purement, j'allais dire purement logistique ? Est-ce que tu arrives à te couper de tes écrans, de ton téléphone, du flux d'informations qu'on reçoit dans la vie de tous les jours, pour aussi réussir à faire un peu abstraction de tout ce qui se passe à côté de toi.
Ouais. Moi, du coup, en travaillant forcément sur les réseaux sociaux, sur, c'est vrai que justement, c'est vraiment important pour moi d'avoir ce moment où je me dis, là, c'est bon, je déconnecte, j'en ai fait assez pour aujourd'hui. Donc, ce que j'ai mis personnellement en place, j'ai un temps de par application en fait autorisé sur mon téléphone. Donc c'est-à-dire que une fois que j'ai fait, je sais pas, je crois que c'est 2 heures sur mes réseaux sociaux, donc tout s'inclut, et bien à chaque fois que je vais essayer de lancer l'application, elle va pas se lancer. Donc certains vont pas du tout aimer cette méthode. Bon, pour moi ça marche parce que ça. Même si après, j'ai vraiment quelque chose à finir, je peux toujours, tu sais, désactiver, enfin, finir ce que j'ai à faire et puis après, voilà. Mais c'est ce rappel de « Waouh, t'as passé 2 heures dessus aujourd'hui. » Donc, voilà, t'as ton rappel, après t'en fais ce que tu veux, mais pour moi, ça fonctionne bien. Et pour moi, c'est aussi le soir. Je sais qu'à partir de telle heure, voilà, je réponds plus ou… ce temps il est pour moi, il est précieux et donc voilà, je le garde. Donc je pense que c'est une question de définir tes propres barrières, tes propres limites. Donc qu'est-ce qui pour toi est acceptable, quelles sont tes non négociables, quelles sont les choses dont tu as besoin par jour pour être sûr que voilà, tu travailles dans ton énergie, tu te respectes, parce que, enfin, tu vois, s'accorder ces petits temps chaque jour, ça va être forcément, enfin, ça va t'aider à être plus efficace. Alors, combien de temps t'as besoin, tu vois ? Il faut, et encore une fois, c'est de la recherche de soi pour savoir comment tu fonctionnes et de quoi tu as besoin. Donc, peut-être que moi, 2 heures, j'ai établi que c'était le maximum que je voulais passer sur les réseaux sociaux par jour, puisque je travaille dessus. Peut-être que pour toi, ce sera 1 heure. Peut-être que ce sera 3. Mais c'est déjà se poser de la question d'où tu veux mettre la limite.
Ok, je note. Je vais essayer d'appliquer ça dans ma vie de tous les jours.
Et je pense aussi qu'il ne faut pas que je sois… Il ne faut pas que tu le… Je pense qu'il faut le… comment dire, le reframe dans ta tête, tu vois. Il ne faut pas que ce soit vécu comme une contrainte. Moi, je sais que si je fais ça, c'est parce que je veux me faire du bien, tu vois. Alors, si tu le vis comme je dois pas faire ça, déjà, notre cerveau, il comprend pas bien la négation, tu vois. Donc, c'est au lieu de se dire je m'empêche, je ne m'autorise pas à aller sur les réseaux sociaux, c'est je m'autorise à prendre du temps pour moi ou à, tu vois, à me faire du bien, à me recentrer. Et de suite, là, ton cerveau enregistre beaucoup plus facilement parce que c'est quelque chose de positif pour toi et c'est plus une contrainte, une restriction. Et c'est pour ça d'ailleurs, par exemple, quand on fait les résolutions, tu sais, en début d'année, C'est pour ça que la plupart marchent pas aussi, parce qu'on se dit je vais arrêter de, je ne vais plus faire ça. Donc forcément, c'est comme une restriction, c'est quelque chose d'un peu agressif, tu vois. Et forcément, ça fonctionne pas. Donc tandis que au lieu de te dire tu vois, je ne fume plus, dis-toi je suis, je prends soin de ma santé, je prends soin de mon corps. Et de suite, c'est quelque chose de beaucoup plus apaisant. Même quand tu dis la phrase, tu le reçois différemment. Donc, peut-être
oui. C'est ça. Oui, c'est une façon de se programmer, j'allais dire, pour pouvoir être plus disponible et plus heureux avec soi.
Oui, c'est ça.
C'est ultra intéressant. J'ai bien noté le conseil. Vivre les choses comme une contrainte.
C'est ça. Donc, quel est le bénéfice, en fait? Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça va t'apporter si tu le fais? Qu'est-ce que ça va t'apporter si tu le fais pas? Et donc, après, utilise ce positif pour te motiver, quoi.
Mais c'est super intéressant parce que, du coup, je reviens au sujet initial qui était l'orientation. Et je me dis, en vrai, c'est la même chose en soi. Parce que tu peux vivre les changements comme une contrainte et te dire, je vais arrêter d'eux. Alors qu'en fait... Quand tu switches, ça fait tout simplement je m'autorise à être plus disponible, à être plus alignée, comme tu disais tout à l'heure, et à me sentir aussi mieux dans ma vie de tous les jours. Et ça, c'est trop, trop intéressant.
Tout à fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec... tu vois, ça doit être une décision. Donc, c'est-à-dire, je remarque ce signe que je ne suis pas alignée avec moi ou qu'il y a quelque chose qui cloche, et je prends la décision de... faire quelque chose par rapport à ça, de m'autoriser à aller creuser cette piste-là. Mmh. Et je pense que c'est pas toujours évident, parce que on a tendance à croire que on note un peu cette vulnérabilité en nous, c'est un peu une forme de faiblesse, alors que pas du tout. La vulnérabilité, c'est clairement une force, parce que justement, c'est que tu veux aller plus loin, c'est que tu en veux plus, et du coup, tu t'autorises à être vulnérable pour aller chercher ça. Il y a beaucoup de choses à déconstruire. Ça prendrait trop longtemps de rentrer dans tous les détails. Et puis, je pense que c'est propre à chacun aussi. Mais c'est vraiment important de s'autoriser à creuser tous ces signes-là plutôt que de se dire... encore une fois, traiter les symptômes. Donc, je suis tout le temps crevée. J'ai besoin de vacances. Top. Besoin de vacances, mais tu as peut-être aussi besoin de creuser pourquoi tu es crevée tout le temps. C'est pas complètement normal, tu vois.
Et du coup, j'ai fait une transition de pony. Comment fais-tu pour aider les gens à prendre des décisions? Et comment justement tu peux mieux t'aligner au moment de choisir un changement et te dire « Ok, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille vers là. » Mais comment faire en sorte d'accepter de prendre cette grande décision dans ma vie?
Pour moi, la prise de décision, ça va être pas seulement avec la tête, déjà. Super important. Et je parlais un peu... l'alignement, tu sais, c'est vraiment ce rapport... c'est considérer qu'on est un tout. C'est quand ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent et ce qu'on fait est aligné. Donc, il va falloir aller récolter toutes ces informations de ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens, ce que je fais. Et donc, les trois éléments que j'aime bien explorer pour la prise de décision, c'est vraiment ce qu'on pense déjà, faire état de ce qu'il y a là-haut. Et puis, qu'est-ce que je ressens? Vraiment faire état des émotions. Et ça va être aussi, tu vois, quand je pense à cette prise de décision, option A, option B, quand je pense à option A, comment mon corps réagit? Est-ce que mon corps s'ouvre? Est-ce que je sens un peu cette expansion? Ou est-ce qu'au contraire, c'est ouf? Tu vois, je me ferme et je sens que... Et le corps, c'est toujours, ou très très souvent. Et du coup, c'est explorer ça aussi. Et puis, enfin, aller chercher dans les tripes, en fait, c'est pas très joli à dire, mais l'intuition qui est vraiment tout au fond. Et c'est un peu comme ce programme qui est en arrière-plan et qui sait un peu avant les autres, quoi. Et donc, de récolter toutes ces informations et après de se dire, ok, tu vois, qu'est-ce que je fais, quoi. Et donc, il y a des petits exercices de méditation que je fais en général autour de ça. Donc, on pourra peut-être en faire l'expérience si on a le temps.
Ouais, si tu veux, je pense qu'on peut en faire un peu en faire.
Ok. Bon, bah déjà, pour se défaire un peu de toute cette conversation, parce qu'on a parlé de vraiment beaucoup de choses, et ça fait beaucoup d'un coup. Donc, je pense qu'on va prendre une grande respiration. Et puis, se débarrasser de toutes ces choses dont on n'a plus besoin. On va s'ancrer petit à petit. Respire encore. Et souffle doucement. Encore une fois, le souffle vient du ventre et remonte. Et on souffle doucement. On va commencer à prendre conscience de notre corps. S'installer. On se concentre sur notre respiration. À chaque inspiration, on va venir nettoyer toutes ces choses dont on n'a plus besoin, toute cette tension. Et l'expiration, on laisse partir toutes ces choses-là. Prenez le temps de respirer. Notre front se relâche. Notre langue ne touche plus le palais. On relaxe la mâchoire. On relaxe toutes les tensions dans nos épaules. On relâche la poitrine. On relâche le ventre, les bras. Nos mains se détendent. Nos jambes se relaxent. Et avec une dernière respiration, on libère toutes les tensions qui restent. On va maintenant s'interroger sur ces choses que l'on sait et qu'on aimerait ne pas savoir. Est-ce que c'est dans votre carrière? Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est dans votre famille, votre santé? Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui que vous aimeriez ne pas savoir? Prenez un moment pour vous connecter à ça. Puis demandez-vous alors quelles sont les pensées qui se concentrent sur notre tête. Notez quelles sont les pensées qui défilent à ce sujet. Quelles informations pouvez-vous récolter? Puis on va descendre, se concentrer sur la poitrine. Vous pouvez poser votre main sur la poitrine. Et on va se demander alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quelles sont les valeurs que j'exprime à ce sujet?
Puis on va descendre sur l'abdomen. Vous pouvez poser votre main. Et on se demande alors qu'est-ce que je sais de cette situation. Qu'est-ce que je sais? Quelles informations puis-je récolter de cette intuition? Puis on va rassembler doucement toutes ces informations qu'on a récoltées. Et demandez-vous alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Prenez le temps de récolter toutes ces informations. Et puis ouvrez les yeux quand vous êtes prêts. Alors, comment vous sentez-vous?
Je suis en mute. Mais comme après le Reiki hier, je suis complètement out. Sur mon signal.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées pour vous?
Oui, c'était plus le moment où on était sur la poitrine. J'ai senti un moment de, je sais pas, un peu une chaleur et un moment de...
Ok. Et toi, Camille? Oui, c'est ça. Donc, c'est juste, tu vois, enfin voilà, apprendre à récolter des messages à divers endroits et pas juste rester dans sa tête comme on a l'habitude de le faire avec l'aspect très logique. Donc, c'est plus aller aussi, voilà, se lier à nos émotions, nos valeurs et puis cette intuition qui est tout en bas et qu'on va rarement chercher. Et puis faire état de tout ce qu'il y a, parce que la pensée, je dis voilà, ne pas être que dans la logique, mais c'est important d'en avoir aussi. Donc c'est vraiment faire état de ces trois étages, et puis de tout autre signe que vous souhaitez considérer, et puis de se dire, bon bah voilà, maintenant que j'ai toutes ces informations à tous ces endroits, qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Donc après, vous pouvez changer un petit peu, bien sûr, les phrases. Là, j'ai fait assez instinctivement, mais si vous préférez, je ne sais pas, vous connecter à un autre endroit, si vous préférez, au lieu de vous demander, voilà, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes valeurs, vous pouvez l'adapter à ce qui fait sens pour vous. Mais comme je dis, c'est juste, voilà, considérer un peu différents niveaux de conscience, en fait. Je crois que vous avez... sur Instagram, j'avais fait une petite vidéo pour justement récapituler un petit peu ces questions que vous pouvez poser à chaque étage et comment. Et comme ça, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez aller là-bas et récolter les phrases pour les adapter comme vous voulez.
Trop cool. Je l'ai noté, je le mettrai dans ma description. Arrêtez l'enregistrement. Je vais faire comme si je te disais au revoir. Mais d'accord. Merci beaucoup pour cette discussion. C'était vraiment super chouette d'en apprendre plus sur ta vision à la fois de la carrière, mais de l'alignement avec soi. Et pour tous ces jolis conseils et cette petite séance de méditation, justement, pour pour qu'on puisse apprendre à prendre du temps pour nous et pour mieux se connaître.
Merci, ben, merci de m'avoir reçue et puis j'espère que ça pourra donner quelques pistes d'exploration à certains et sachez que tout ce que vous sentez, vous ressentez est valide et tous vos rêves le sont aussi, donc juste donnez-vous le droit d'aller les chercher et de rêver un peu plus grand. Voilà.
Salut.
Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'études t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on te propose avec Our Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau !